Il est 19h05. Merci d'être avec nous, amateurs de sport. Nous accueillons Philippe Quentin. Bien le bonsoir, Philippe.
Salut, Mario. C'est notre journée de grosses retrouvailles. On a passé l'après-midi à parler ensemble.
Exactement. Puis ça a bien l'air qu'on va vivre ça assez régulièrement maintenant que tu t'es ajouté à l'équipe de l'après-midi avec Patrick Lagacé. Donc, ça va être très, très plaisant de partager l'espace puis de partager des opinions parce qu'on n'est pas habitué, nous autres, on est habitué de se parler rendu au moment où on arrive à livrer en onde. Ben, je veux dire, on se croise quand même. Mais là, ça va être bien le fun de partager des idées, de commenter au fur et à mesure, de t'écouter avec Patrick, puis de rebondir sur ce que tu as dit. Et d'ailleurs, ben, le sujet sur lequel on a tous eu envie de se prononcer aujourd'hui, c'est la fameuse situation de Laurence Vincent à la pointe. Je vais commencer avec une question, pas sur les faits, mais... As-tu envie de la croire?
Ben oui, j'ai envie de la croire, c'est sûr. Mais qui au Québec n'a pas envie de la croire? C'est le plus bel espoir de médaille pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. C'est une fille qui est, à tout point de vue, extraordinaire. Je l'ai interviewée cet été à ton micro quand j'ai animé l'émission tout à coup pendant quelques jours. Ça a été une entrevue tellement le fun à faire avec elle. Elle m'a raconté comment elle avait été heureuse quand elle a appris que sa discipline serait enfin aux Jeux olympiques. Parce que tu sais, Mario, que le canot oui. Le canoë, ça sera la première fois que les femmes participeront aux Jeux olympiques en canoë. Mm-hmm. Les gars, alors la première fois, c'est l'été prochain, 2020 à Tokyo. Les gars, ils font du canoë aux Jeux olympiques depuis 1936. Alors, elle a tout expliqué ça, cette espèce de combat-là. Puis elle a raconté comment, en 2017, elle revenait d'une compétition internationale. À sa descente de l'avion, sa mère est là. Elle l'accueille, puis sa mère lui dit « Hey, Laurence, tu sais pas ce qui vient d'arriver. La nouvelle vient de sortir. Ton sport vient d'être accepté aux Jeux olympiques. » Elle dit « C'était un des plus beaux jours de ma vie. » Puis depuis ce temps-là, je me bats pour ça. Alors, tu sais, c'est une fille très sympathique et tout. Et là, c'était les championnats du monde. Ce sont les championnats du monde qui commencent en Hongrie. Elle était là. L'idée, c'est pas de se qualifier en Hongrie sur le plan individuel. C'est-à-dire que c'est pas elle qui allait se qualifier. C'est-à-dire que les représentantes canadiennes essaient d'aller qualifier le Canada pour les Jeux olympiques et les noms des participantes seront déterminés au printemps prochain. Alors là, le Canada perd quand même une chance, sans doute, de qualifier deux embarcations. Sa partenaire est également très forte, donc le Canada devrait quand même obtenir une qualification, mais peut-être pas deux. Alors ça, tout de suite, en partant, il y a peut-être une chance de médaille qui vient de partir pour le Canada.
Dans un cas de dopage, qu'est-ce qui est le plus important du point de vue du camp affecté? Est-ce que c'est qu'on croit ce qu'on dit ou de prouver vraiment scientifiquement le contraire?
C'est de prouver. C'est de prouver parce que
excuse-moi, de faire croire les gens à ce qu'on dit ou de prouver scientifiquement le contraire?
Non, il faut prouver. Définitivement, parce que le reste, aujourd'hui, les gens sont sceptiques parce qu'il y a eu tellement d'athlètes qui, au fil des années, ont subi des tests positifs puis qui ont donné toutes sortes de raisons pour expliquer que non, c'était pas ça puis j'ai pas voulu. Puis il y en a qui ont carrément menti au fil des années, qui étaient interviewés. En avez-vous pris? Non. Puis la réponse était oui. Tu sais, Lance Armstrong en est l'exemple
Geneviève
le plus probant.
Ici tout au à Québec, fait. Puis...
Alors, donc, il faut prouver. Et là, la grosse question, c'est elle, je l'écoutais aujourd'hui, bon, sur le plan humain, c'était déchirant de l'entendre là, quand elle a raconté en conférence de presse ce matin, notamment quand elle a eu la nouvelle, quand elle a appris la nouvelle, elle a dit « j'étais même pas capable de pleurer ». Elle a dit « j'étais comme, tu sais, moi j'emploie le mot, c'est pas le mot qu'elle a utilisé, mais j'emploie le mot tétanisé, là, elle n'avait pas de réaction ». Puis elle a dit tout à coup, elle a dit « je me suis roulé en boule ». Puis là, j'ai dit à quelqu'un qui était à côté, je veux voir ma mère. Tu sais, j'ai trouvé ça bouleversant de l'entendre raconter ça. Mais là, quand même, t'écoutes tout ça, puis tu dis, ouais, mais bon...
Il y en avait des échantillons.
Il y en avait, puis son avocat est là, puis personne conteste. L'échantillon A était positif. Ils ont tout de suite demandé l'analyse de l'échantillon B, positif aussi. Alors ça fait aucun doute. Il n'y a personne qui conteste ça. Maintenant, ce qu'elle dit, c'est que la substance qu'on appelle
l'Ligandrol,
voilà, s'est retrouvée à son insu dans son corps. Et c'est comme ça que le test est devenu positif. Alors, bien sûr, tu t'entends ça, puis tu dis, ben voyons.
Ben, ils disent tous quelque chose qui ressemble à ça.
Alors là, je vais te parler d'une nageuse australienne. Elle s'appelle Shayna Jack. Elle a 20 ans. Il lui est arrivé exactement la même chose il y a quelques semaines, au mois de juillet. Elle aussi a un test positif. Elle aussi, au Ligandrol, elle aussi dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Je ne peux pas concevoir ça. Alors là, elle est australienne, donc en Australie, on s'est intéressé à son cas, comme aujourd'hui au Québec, on s'intéresse cas de Laurence Vincent Lapointe. Et il y a un quotidien de Sydney, un quotidien fort reconnu, qui fait une entrevue avec Travis Tygart. Travis Tygart, c'est le chef de l'agence antidopage américaine. Et lui, il dit, écoutez, soyons prudents avec le Ligandrol. Il dit, c'est avant de condamner les athlètes tout de suite, il se peut qu'effectivement qu'il y ait des échantillons qui soient contaminés. Et voici comment il explique la chose, c'est que dans les équipements qu'on utilise pour faire des suppléments vitaminiques,
Là, tu parles des fabricants ou tu parles des centres d'entraînement?
Des fabricants.
De ces substances-là.
Exactement. Alors, on imagine des laboratoires ou des cuisines industrielles, puis on prépare des pots de ça. Il dit, on peut fabriquer des produits avec du ligandrol, puis des produits qui n'ont pas de cette substance-là. En fait, lui, il ne parlait pas du ligandrol, il parlait d'une autre substance, mais qui s'apparente beaucoup, OK? C'est pas tout à fait la même. Mais il dit ça, c'est cette substance-là qui s'appelle, je pense, c'était l'ostyrine. Ça peut rester collé un peu à l'équipement, aux cuves. Alors, et là, quand on fabrique après des suppléments qui ne contiennent pas ce produit-là, il peut y avoir des traces qui vont aller dans ce nouveau supplément-là. Je vais te donner un exemple. Ça, c'est mon exemple. J'essaie de concevoir
ça. Non, mais bon, vas-y.
Ouais, ben, je me suis dit, c'est comme, tu sais, on a, par exemple, un enfant qui est allergique aux arachides. On veut pas qu'il mange d'arachides. Alors, on regarde partout sur les paquets. Puis, des fois, sur des paquets, très souvent, on voit peut contenir des traces d'arachides. Puis ça peut être un produit qui n'a aucun rapport avec un goût d'arachide. Le fabricant, il met ça pourquoi? J'imagine qu'il met ça parce que l'équipement qui a été utilisé pour fabriquer le produit à base d'arachide va être nettoyé après, puis on va fabriquer un autre produit qui n'a pas d'arachide, mm-hmm. mais il y a peut-être une trace qui reste. Ça m'a fait penser un peu à ça. Alors là, est-ce qu'on peut dire, peut qu'on tire des traces de ligandrol? Bien sûr, il n'y a personne qui écrit ça sur le supplément vitaminique. Alors, j'ai l'impression que la ligne de défense de Laurence-Vincent Lapointe, ça va être autour de ça. Mais là, il va falloir qu'il remonte la chaîne de fabrication. Ça, c'est très difficile.
Elle ne sera jamais complètement blanchie.
Non.
Même si elle devait prouver le contraire.
Ouais, moi, je pense que ça va être très difficile pour elle d'éviter une suspension. Maintenant, c'est peut-être la durée de la suspension. Je vais te donner un autre exemple qui est arrivé. Patrick Lagacé en a parlé un petit peu plus tôt à son émission aujourd'hui. Un cas très intéressant, c'est le cas d'une karatéka américaine qui s'appelle Joanne Orban. Elle, elle a plaidé exactement la même chose pour une substance proche du ligandrol. Et l'agence de dopage américaine a dit « OK, c'est vrai, on accepte que tu as été victime d'un produit contaminé, puis on accepte que ça a été à ton insu. Mais tu l'as pris, donc tu es quand même responsable, sauf qu'au lieu d'avoir une suspension de 2 ans ou même plus, elle a eu une suspension de 9 mois. »
C'est un autre débat, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, je trouve, dans l'application. Parce que si on admet que la personne l'a pris de façon involontaire, tu as beau être responsable de ce que tu ingères, mais il reste que si c'est fourni par ton centre d'entraînement qui achète des produits légaux dans lesquels il y a des traces du fameux produit, du fameux ligandrol, dont personne n'a connaissance, là, ça devient une sanction injuste un peu.
Ben, peut-être. Mais, tu sais, à la limite, pas de sanction, est-ce que c'est correct aussi? Je ne sais pas. Je pense que
sinon,
le droit
tout le monde
va
toujours se trouver une théorie de défense, puis on va être obligé d'absoudre tout le monde.
Exactement. Puis Travis Tiger, je reviens avec lui, je vous rappelle, c'est le directeur de l'agence antidopage américaine. Il dit que ce n'est pas tous les panels d'arbitrage qui étudient les sanctions à donner à des athlètes qui voient ça de la même façon. Il y en a qui vont être beaucoup plus sévères, puis qui vont dire aha, trace, sanction. Il y en a d'autres qui vont être plus à l'écoute un peu des circonstances. Alors là aussi, là, c'est ultimement, ce sont des gens qui vont juger puis qui vont décider. Alors, on va voir. Cela dit, pour résumer tout ça, moi où j'en suis aujourd'hui, je continue de penser comme un petit peu plus tôt aujourd'hui qu'elle est dans une position extrêmement délicate, Laurence-Vincent Lapointe. Ça va être très difficile. Elle fait face à tout un défi. Elle est son avocat de démontrer sa non-responsabilité.
Oui.
Mais c'est peut-être pas impossible. Il y a peut-être une mm-hmm. pogne. Est-ce qu'il y a une pogne pour qu'elle ait zéro suspension? Ça, encore une fois, je trouve ça, ça m'étonnerait peut-être un peu, mais est-ce qu'il y aurait peut-être la possibilité? Je pense que dans le meilleur des cas pour elle, ce serait peut-être une suspension de plus courte durée. Puis oublions pas que toute suspension qu'elle aurait, le temps à partir d'aujourd'hui, là, il est comptabilisé. Autrement dit, si dans 4 mois, on déclare qu'elle est suspendue pour 9 mois, ben, il y en aura déjà 4 de fait. C'est-à-dire que ça ne reprend pas là. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que les Jeux olympiques, ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas dans 3 ans.
Non.
C'est l'été prochain. Aujourd'hui, c'est dans moins de 12 mois. En fait, dans moins de 12 mois, ils sont terminés, les Jeux olympiques de Tokyo. Ils finissent le 4 août de l'été prochain. Alors, donc, on est dans une question de date aussi. Là. C'est pas simplement... On n'est pas au début du cycle olympique d'été. On est à la fin du cycle olympique d'été. Donc, pour elle, la date est très importante aussi.
Autre sujet, Philippe. Hier, tu demandais à tes invités, bonsoir les sportifs, que tu animeras encore ce soir. Tu leur demandais de donner une note à nos équipes pour ce qui s'est fait pendant l'été. Je vais concentrer ma question sur le Canadien. J'ai entendu les notes que les gars donnaient, mais j'ai pas entendu la tienne. Toi, l'été de Marc Bergevin, de son part du du repêchage un peu avant jusqu'à aujourd'hui. Ben, qu'est-ce que tu en penses?
Ben moi, jusqu'à maintenant, bien sûr, je suis pas très impressionné parce que il s'est pas produit grand changement chez le Canadien.
T'attendais-tu à des changements?
Ben, je m'attends à des changements. J'espère qu'il va y avoir des changements parce que pour moi, si on revient en octobre prochain avec exactement ou à peu près la même équipe, là, si le gros changement, c'est Keith Kincaid à la place de
Chariot puis Kincaid.
Chariot, là, tu sais, je veux dire, on peut pas dire qu'on peut pas arriver puis dire aux gens, écoutez, on est une équipe nettement améliorée avec ces deux gars-là. Non, tu sais, Jordy Benn est perdu, est parti. Chariot, bon, c'est peut-être un peu meilleur, mais ça reste encore à démontrer. Kincaid, peut-être. Peut-être pas non plus. Ça n'a pas été convaincant l'an dernier. Alors, je pense pas que le Canadien a une meilleure équipe. Donc, jusqu'à maintenant, je donne une note. Écoute, c'est difficile, là, puisque l'été n'est pas fini. Puis, disons, alors, disons, c'est, là, pour le moment. On ne commencera pas à donner des A, puis on ne donnera pas des E non plus. Mais, il va falloir, à mon avis, qu'il se produise quelque chose. Et,
Me permets de t'arrêter là, j'ai envie de déborder parce que ça me fait penser ta réponse à... Parce que, tu sais, c'est pas passé grand-chose en termes d'acquisition via le marché des joueurs autonomes donne-moi là, d'autres noms, mais outre John Tavares qui vit un rêve d'enfance de venir à Toronto, là, quels sont les joueurs autonomes d'envergure qui reviennent jouer? Non, qui ne veulent pas jouer à Montréal, mais qui ne veulent pas jouer au Canada. Est-ce que la Ligue devra faire quelque chose pour peut-être mener, aider les équipes canadiennes? Est-ce que je le sais pas, mais clairement, là, à part John Tavares et chers auditeurs à l'écoute, si vous avez un nom en tête d'un joueur autonome d'importance qui s'est aligné avec une des 7 équipes canadiennes dans les 15-20 dernières années, là, ben, je veux le nom.
Tu mets pas Carl Osner là-dedans?
Non!
Je pense pas que c'est une question d'équipe canadienne. Je pense que c'est une question de marché. Est-ce que tu trouves que, par exemple, Columbus, pas grand joueur qui veulent aller à Columbus, ils sont tous partis, les joueurs autonomes qu'ils avaient. Mm-hmm. Panarin a eu une offre extraordinaire de Columbus, puis
ça n'a pas suffi.
Une équipe comme Buffalo, il n'en attire pas de joueurs autonomes. Quand il y a un échange, oui.
Il y a des destinations plus sexy.
Ben oui, c'est ça. Puis je regarde, c'est pas propre. Nous autres, on regarde, puis on pense au hockey, là, puis on dit, alors, qu'ils veulent pas venir à Montréal. C'est la même chose dans tous les sports. Là. Odell Beckham Jr., le receveur de passe des Giants de New York, se retrouve à Cleveland. Là. Il n'est pas très content. Puis Antonio Brown, il n'a pas l'air très content de se retrouver à Oakland non plus après avoir joué à Pittsburgh où ben, ça n'allait plus, mais probablement qu'il voulait aller dans une grosse équipe, dans une autre équipe. Alors, tu sais, dans tous les sports, je ne suis pas sûr que tout le monde se bat pour aller jouer pour les Royals de Kansas City dans le baseball. Alors, il y a des équipes qui sont plus attrayantes que d'autres. Au Québec, au
mais
Canada...
Mais tu parles de système où il n'y a pas de plafond salarial, plafond salarial, en tout cas que je sache. Alors là, c'est peut-être ça au plus fort la poche.
Ouais,
parce que si tu remets ça au plus fort la poche dans le hockey, tu penses-tu que les joueurs autonomes se remettent à revenir ici, au Canada, ou ça va continuer de la même façon?
Parce que Serge Chavard
me confiait que c'était pas plus facile dans le temps, mais il est convaincu. Brian Bellows puis Bobby Smith.
Je pense que quand tu mets l'argent sur la table, t'as plus d'occasion de le faire, c'est sûr. Puis si le Canadien, il n'y avait pas de plafond salarial puis qu'il pouvait dépasser 120 millions par année, il irait probablement chercher des joueurs parce que tout à coup, tous les autres arguments, la fiscalité, c'est ça. Tu sais, peut-être que je vais avoir 5 millions de plus dans mes poches par année. Ça vaut peut-être la peine. Alors moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Mais la façon pour les équipes canadiennes de garder, là, c'est de garder leurs joueurs. Alors, regarde, il y en a plusieurs qui ne partent pas. Là. Austin Matthews, il a quand même signé un contrat de 5 ans. Il va rester à Toronto. Mm-hmm. C'est sûr que Toronto, c'est un gros marché. Mais Connor McDavid, très bon exemple. Edmonton.
Il faut que tu repêches, Philippe.
Oui, puis là, il a signé un contrat à très long terme. Ils ont profité, les Oilers. Ils pouvaient lui donner 8 ans. Puis, tu sais, personne, il va être là pendant encore bien des années.
Si tu repêches, les gars, je pense, apprivoise la situation, même les Américains, puis peuvent aimer jouer au Canada, mais en tout cas, rendu à l'autonomie, on dirait qu'ils regardent ça autrement. Un des sujets que tu vas aborder, ou sinon le sujet que tu vas aborder ce soir à Bonsoir les sportifs, concerne les déclarations de quelques anciennes légendes du baseball qui trouvent ça pas tellement divertissant. Le baseball actuel, on a déjà entendu ça dans d'autres sports, d'anciens de leur sport, dont dans le hockey. Comment t'accueilles ces commentaires-là?
Ben, c'est un article dans le USA Today hier où Pete Rose, Lou Piniella et Goose Gossage, Piniella a notamment été gérant, Pete Rose aussi, bien sûr, disent que c'est vraiment plate, le baseball, maintenant. Je pense que c'est... Est-ce que c'est Gossage ou Piniella? Je pense que c'est Gossage qui dit... C'est plus regardable. Il va très sévèrement. Alors, pourquoi? Ils disent trop de coups de circuit. trop de retrait sur trois prises, et ça enlève tous les éléments stratégiques. C'est plus comme dans notre temps. Le vol, tu sais, quand Philippe Alliot disait, on va fabriquer un point, là, tu sais, peut-être un amorti surprise pour aller au premier, on vole le deuxième, on avance parce que le frappeur, il va frapper derrière le coureur pour qu'il se rende au troisième, puis on va marquer sur un ballon sacrifice. Tu sais, le point fabriqué, là, de A à Z, on voit plus ça. Aujourd'hui, c'est le circuit de trois points, puis je pense que c'est Pete Rose qui dit, les gars sont capables de cogner des circuits, mais ils ne savent plus frapper. C'est intéressant. Ils cognent des circuits, mais ils ne savent plus frapper. Ce qui veut dire par là, c'est qu'ils sont plus capables
de
mettre la balle en jeu, puis frapper derrière le coureur, puis bon, tout ce qu'on a appris en regardant les expos, puis quand on jouait un petit peu au baseball, puis qu'on essayait de nous montrer. Mais alors, c'est assez intéressant de voir que ce débat-là est lancé aux États-Unis. Puis c'est ça, ce soir, Jeanine, bonsoir les sportifs. C'est la question que je vais poser aux gens. Je vais en parler aussi avec Alex Agostino, savoir son avis là-dessus. Quand je lui ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, notre expert au réseau Cogeco, j'ai dit, Alex, je sais pas si t'es au courant, t'as vu le papier dans le USA Today. Mais, je l'ai lu. Alors, tu sais, je pense que dans le baseball, c'est un sujet. Ça fait jaser. Et puis, Michel Laplante, président des Capitales de Québec aussi, sera avec nous.
Ben, un gros merci de tes propos, Philippe. On sera bien sûr à l'écoute ce soir, 20h30. Puis là, je fais du coq à l'âne. Je reviens en terminant sur les propos de Benoît Morin avant les nouvelles tout à l'heure. Puis comme pharmacien, lui, ce qu'il disait, et je te parlerai de qui en dehors des ondes, mais il y a des athlètes d'élite qui se réfèrent à lui pour savoir qu'est-ce que je peux prendre, que je peux pas prendre. Ils sont pas tous dans des équipes nationales au quotidien. Et dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est prenez pas de supplément. Prenez-en pas. Touche pas à ça. C'est spécial parce que je sais pas s'il y a des athlètes qui prennent pas de supplément aujourd'hui.
Ben, je sais
tout
pas.
Tout sport confondu.
Mais imagine aujourd'hui, là, Mario, je veux juste, prends 15 secondes de plus.
C'est moi qui ai tiré ça.
Prends 15 secondes de
plus.
Faut
que je vive avec.
C'est ça. imagine le coût de semences pour tous les athlètes aujourd'hui qui voient ça. Et qui doivent se dire « Oh, oh! »
Ça peut m'arriver,
ça
peut-être.
Peut m'arriver. Qu'est-ce que je fais? Alors, je serais très curieux de savoir la consommation de suppléments. Ça va être quoi à partir d'aujourd'hui, au moment où on se parle, par rapport à ce que c'était
drapeau jaune,
la semaine
là, pour
dernière.
Tout le monde.
Hey, t'es un athlète olympique, là. T'es prêt à vivre ton rêve d'aller aux Jeux olympiques. Puis là, tu vois, là, Laurence-Vincent Lapointe, elle avait le même rêve. Puis là, ça vient d'y arriver. Puis là, tu dis « Coudonc, moi? » Alors, tu penses qu'il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui vont être extrêmement prudents à partir de maintenant, puis leur fédération va leur rappeler, puis leur entourage va leur rappeler, puis tout ça va être encore, j'ai l'impression, plus contrôlé.
Bonne soirée, Philippe.
Merci,
bonne
Mario.
Émission ce soir. Trouves-tu ça plate, toi, le baseball?
Non, moi, j'aime ça quand même.
On revient dans quelques instants, et Bruno Eppel, qui trouve ça pas mal moins plate d'analyser les Alouettes ces temps-ci ou les performances des Alouettes. Et d'ailleurs, on va revenir sur la victoire in extremis survenue samedi contre les Stampeders à Calgary dans un instant.